Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Alors, vous l'avez vu dans le Journal de Montréal de ce matin, Guillaume Lemaitre-Vierge, comédien, animateur, réalisateur, qui poursuit le Journal de la presse pour 1,85 million. Il est très mécontent, il est absolument furieux que la presse ait révélé l'automne dernier son statut vaccinal. Donc, il dit, ben, ça porte atteinte à ma réputation, ça m'a causé des humiliations, ça a surtout causé la perte de différents contrats. On va parler de tout ça avec Myriam Segal, qui est chroniqueuse avec nous pendant toute la semaine pour la rencontre Segal-Durocher. Myriam, donc, ex-animatrice et professeure. Bonjour Myriam!
Allô?
Est-ce qu'il a raison, Guillaume Lemaitre-Vierge, de se dire choqué, frustré et attristé par le fait que dans la presse, on ait révélé son statut vaccinal?
Écoute, moi, je pense que c'est une très mauvaise chose. Il ramène la question à l'avant-plan. C'est une mauvaise chose pour lui. Par contre, je pense que pour le journalisme, c'est une bonne chose.
Ah oui? Explique-moi.
Je pense que pour les vedettes, c'est aussi une bonne chose parce qu'il va forcer une certaine réflexion. Qu'est-ce qui est public? Qu'est-ce qui est privé? Les vedettes ont une tendance à étaler leur vie privée de façon très publique. Par exemple, Guillaume Lemaitre-Vierge tient un blog avec des amis dont le sujet est essentiellement sa vie de père de famille. Mm-hmm. À partir du moment où tu exploites ta vie privée de façon très publique, est-ce que ton statut vaccinal fait partie du privé ou fait partie du public?
Excellente question.
Moi, je pense que pour lui, c'est une mauvaise chose. Parce qu'il se remet sous le spot pour alors qu'on l'avait presque oublié, les influenceurs l'avaient supplanté. Mais que pour le journalisme, si ça va jusqu'au procès et si ça va jusqu'à un jugement, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'on va pouvoir clarifier, les tribunaux vont pouvoir clarifier qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé.
Oui, c'est une bonne chose, puis en même temps, Myriam, ça va dépendre, c'est un petit peu un 25 sous lancé dans les airs, parce que, évidemment, ce jugement-là, si jugement il y a lieu, va faire jurisprudence, et évidemment, nous comme médias, si le juge émet des règles très strictes, bon, on va se dire, c'est un frein à la liberté d'expression médiatique. C'est en fait, la communauté journalistique, on fonctionne un peu toujours de la même façon. Si c'est un jugement en notre faveur, on est bien content. Si c'est un jugement qui reste notre liberté d'action, on va la dénoncer. Donc, faut faire attention à ce qu'on souhaite quand on est journaliste, parce que ça va peut-être être plus de règles.
Et je pense aussi qu'il faut que les jeunes vedettes qu'on est en train de fabriquer à une vitesse VV' par toutes sortes d'émissions de télé-réalité ou d'émissions plus vertueuses comme Star Academy, que j'aime beaucoup, je pense que toutes ces jeunes vedettes doivent réfléchir très tôt dans leur carrière à ce qui est privé et à ce qui est public. Si tes relations de couple font la une des journaux et que tu l'étales, attends-toi à ce que le jour où ton couple va pas bien, ben ça fasse la une des journaux puis que ça te fasse de la peine.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, mais même...
La réflexion que Guillaume Lemaitre-Vierge amène par cette poursuite est en soi salutaire. Je suis un peu inquiète cependant parce que c'est évident que le journal La Presse n'a plus les reins aussi solides qu'avant et on risque fort de se retrouver devant une entente hors cours dont les conditions sont confidentielles. Ça fait que tu sauras jamais qui a eu raison et qui a eu tort là-dedans.
Oui, c'est possible que ça se règle en effet en privé.
Mais
et que
en quoi, j'aimerais ça moi qu'on clarifie les choses. Est-ce qu'à partir du moment où tu es une personnalité publique qui exploite ta vie privée pour gagner ta croûte, où s'arrête ta vie privée et où s'arrête, où commence sa vie publique? Est-ce que tu as le droit de décider que ce qui te tente est public, mais ce qui te tente pas est privé?
Voilà, et c'est intéressant que tu soulèves ça parce que replaçons-nous dans un autre contexte très différent. Là, je tiens à le spécifier, je fais pas de parallèle exact, mais rappelons-nous par exemple quand Joël Legendre s'était fait pogner par le Journal de Montréal parce qu'il avait exhibé ses parties intimes dans un parc à Longueuil. Il avait reçu donc une contravention et le Journal de Montréal était tombé là-dessus. Il avait publié cette information-là. Et là, Joël Legendre disait, ben voyons, c'est ma vie privée, ça a pas été... pourquoi... Et là, moi, j'avais...
L'administration de la justice est publique.
Voilà. mais moi, ce que j'avais fait, le parallèle...
Dans le cas de Guillaume Lemaitre-Vierge, c'est comme plus borderline, hein?
Oui, mais quand même, moi, le parallèle que j'avais fait à l'époque, c'est que j'étais retournée dans différentes occasions où Joël Legendre avait fait rentrer les caméras chez lui. Il avait donc eu ses deux petites filles avec une mère porteuse. Les caméras étaient rentrées. C'était l'émission Accès illimité, hein, qui porte très bien son nom. Nous avait montré même la chambre de ses enfants, et tu sais, c'était vraiment, tu peux pas faire rentrer les caméras plus dans ton intimité que ça, et c'est parce qu'il reprochait aux journalistes de l'avoir poursuivi, tu sais, il y avait une caméra du Journal de Montréal qui l'avait suivi dans son auto et tout ça, et là il disait, ben là vous faites une intrusion dans ma vie privée. Oui, mais c'est ça, c'est que tu peux pas jouer sur les deux côtés là de la médaille.
Moi, je me rappelle avoir donné une formation à des jeunes qui participaient à un concours de chansons dans mon patelin. Puis je leur avais dit, faites attention quand vous répondez. D'abord, je leur expliquais comment répondre aux questions. Et puis ensuite, quand vous répondez à une question sur votre vie privée, ben vous commencez à accepter que votre vie privée ne soit plus privée.
Voilà.
Mais tu sais, l'intimité n'existe plus beaucoup. On l'a vu avec les influenceurs. On parle maintenant plutôt d'extimité. C'est-à-dire que tout ce qui était intime autrefois devient très, très public. Sauf que, est-ce que tu peux décider, toi, ce qui est public et ce qui ne l'est pas?
Ouais, mais la question se pose aussi, tu vois les influenceurs justement, certains qui étaient sur le vol de Sunwing, certains qui sont revenus quand même par avion avec un vol d'Air Canada hier, ils ont été accueillis à l'aéroport par deux de nos collègues, donc Yves Poirier dans un cas et Olivier du Journal de Montréal, et ils sont là puis ils disaient laissez-moi tranquille, puis vous avez pas d'affaire à me mettre un micro dans le visage puis une caméra dans le visage, attends deux secondes toi. C'est parce que quand tu étais dans l'avion, c'est toi-même qui te filmais. Non seulement tu t'es filmé, mais tu as mis ces images-là sur les médias sociaux dont tu t'es auto-incriminé. Donc, c'est quand même délirant, là.
Absolument. Puis leur réponse est assez édifiante sur leur quotient intellectuel. Mais je veux pas m'étendre là-dessus. Je trouve que sur le plan du journalisme, la poursuite de Guillaume Lemaitre-Vierge est peut-être une bonne chose. Pour lui, oui. Je pense que c'est une mauvaise chose.
Oui, puis t'as tout à fait raison de dire qu'on en parlait presque plus. En même temps, il y a eu quand même eu tout un sketch sur lui où il était extrêmement bien imité par notre amie Guylaine dans le bye-bye, donc il était quand même un petit peu dans l'actualité. Mais tu sais, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet Streisand. C'est en référence à Barbara Streisand, il y a plusieurs années de ça, il y avait un journal pas très connu qui avait fait un reportage sur une maison qu'elle venait de sa acheter. Et elle a poursuivi le journal en disant, vous n'avez pas d'affaire de montrer des images de ma maison et de dire combien je l'ai payé. Sauf que personne n'avait vu passer le texte. Et donc, elle, en faisant une poursuite, a fait en sorte que tout le monde est allé voir les images, tout le monde a su où elle habitait, tout le monde a su combien elle avait payé pour sa maison. Et depuis ce temps-là, c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand, c'est-à-dire que si tu attires l'attention de tout le monde sur un truc parce que tu penses que toi, ta réputation a été atteinte, ben fais attention parce que tu vas peut-être justement contribuer à ce que...
L'effet recherché au bout du compte.
Exactement, voilà. Donc c'est peut-être ce qui est arrivé avec Guillaume Lemaitre-Vierge, parce que je pense honnêtement qu'en 2022, tout le le monde avait à peu près passé la page, puis tout le monde était, tu sais, je veux dire, c'est un comédien extraordinaire, c'est un animateur fabuleux. Je pense, pour avoir parlé à des gens qui travaillent avec lui comme réalisateur, que c'est un excellent réalisateur. Donc je pense qu'il serait retombé sur ses pattes, puis il aurait très bien pu continuer sa carrière sans aucun problème. Puis on le voit de toute façon dans l'émission.
Chaque fois que la poursuite va franchir une étape, à chaque fois, on va refaire la manchette puis on va se demander, coudon, y es-tu vacciné à ce faire?
Oui, c'est ça. Puis en plus, il y a un collègue du journal qui lui a parlé et il a refusé de dire c'était quoi son statut vaccinal. C'est quand même bizarre parce
il
avait fait...
Il peut plus répondre à cette question-là.
Voilà.
Il poursuit la presse en leur disant que c'est confidentiel. Fait que s'il répond à la question, il vient d'accepter l'idée que c'est public. Il peut plus répondre à cette question-là. Il se met dans une situation infernale. Mais je pense qu'effectivement, on a besoin d'un jugement qui va nous tirer un peu plus la ligne sur ce qui est privé et public plutôt que d'aller de poursuite en poursuite.
Oui. Myriam, ton deuxième sujet dont tu veux nous parler aujourd'hui, c'est une réaction à la conférence de presse du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, hier. Tu m'envoies des petites notes pour me parler de tes sujets. Tu m'as dit « Il est aussi mauvais que le commandant du vol de Sunwing ». Qu'est-ce que tu veux dire exactement?
Le commandant du vol de Sunwing aurait dû faire atterrir en urgence son avion au premier aéroport de dégagement qu'il avait sur sa route. Quand un passager s'empare du système de transmission à bord sans la permission des agents de bord, il y a matière à un atterrissage d'urgence dans un aéroport de dégagement. Il n'aurait jamais dû se rendre à destination.
Et de faire demi-tour.
Et ça ne m'étonnerait pas que le commandant du vol de Sunwing soit blâmé par Transport Canada.
Oui. Et donc, le parallèle avec Jean-François Roberge, c'est que lui aussi aurait dû faire un atterrissage d'urgence.
Le problème de Jean-François Roberge, c'est qu'il n'est pas bon non plus. Il ne sait pas ce qui se passe dans son avion. Il ne comprend pas ce qui se passe dans son avion. Il ne sait pas ce qui se passe dans son avion. Ou il s'est mis des écouteurs puis des lunettes fumées puis il ne veut pas le savoir, ce qui se passe dans son avion. Depuis le début de la pandémie, il est pire que Trudeau. Il y a toujours une coche de retard. Trudeau, il y a toujours une coche de retard sur la gestion de ses frontières. Jean-François Roberge, il y a toujours une coche de retard sur ce qui se passe dans ses écoles. Alors, par exemple, les détecteurs de CO2 vont être installés au mois de février, vont toutes les avoir. Ça, Sophie, les détecteurs de CO2, là...
C'est une blague!
C'est comme si tu manquais d'huile dans ton moteur manque d'huile dans ton auto, là, puis t'as un voyant qui est allumé qui dit que tu manques d'huile, puis tu dis, je vais me rajouter un deuxième voyant à la place de t'arrêter puis de mettre de l'huile.
Ben, c'est un très bon parallèle.
Les détecteurs de CO2, c'est juste un système d'alerte. Ça règle zéro problème.
Oui, c'est comme si le feu est pogné dans la maison, puis tu fais juste rajouter un autre détecteur d'incendie, mais c'est parce qu'on le sait que le feu est pogné. Ce qu'on veut, c'est éteindre les flammes. Et c'est pas ça qui fait du tout.
N'importe quel parent va te dire qu'aussitôt, n'importe quel professeur va te dire qu'aussitôt qu'on démarre les systèmes de chauffage à l'automne, les maladies se répandent dans l'école aussi bien que le variant Omicron.
Oui.
La ventilation dans les écoles, ça a toujours, toujours, toujours été un problème. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute des détecteurs de CO2. Totalement inutile. On le sait qu'il y a un problème, et ce qu'il faut régler, c'est le problème, pas le signalement du problème.
Oui.
Deuxièmement, les masques N95. Il laisse à côté de lui Horacio Arruda dire que les N95, bon, c'est pas si bon que ça, c'est dû rapporter, puis les experts nous disent que c'est pas nécessaire pour les écoles. Regarde, si les professeurs veulent des N95, donne-leur des N95. Les professeurs
Exactement.
Sont précieux, ils sont rares, tu veux qu'ils restent au travail, donc tu leur donnes le matériel dont ils ont besoin pour travailler, point à la ligne. Alors, ministre d'Éducation, il peut très bien se redire face à la santé publique et dire, regarde Horacio, tu t'es gouré une première fois dans l'histoire des masques, mes professeurs veulent des masques N95, on leur donne les masques N95, point à la ligne. Là aussi, je le trouve très, très, très mollasson. Sans compter qu'il a été soporifique, j'ai failli m'endormir, moi. Pourtant, j'étais sur le bout de ma chaise pour l'écouter.
Écoute,
Et
tu sais ce que j'ai fait ce matin?
C'est la question du calendrier qui me dérange beaucoup dans sa façon de
piloter c'est ça.
Le système scolaire.
Il veut absolument un retour le 17 janvier. Oui.
Oui, le retour est officiel le 17 janvier, mais il considère, si tu as bien écouté la conférence de presse, là, si tu t'es pas endormi avant, là, il considère que la semaine prochaine, du 10 au 17, donc les 5 jours de la semaine prochaine, sont considérés comme des jours de classe quand même. Parce que les élèves vont avoir du travail à faire à distance. Ça, c'est pour maintenir artificiellement les 180 jours de classe obligatoires au calendrier scolaire du Québec. Et Sophie, je ne sais pas si tu t'es déjà amusée à faire ça, moi je l'ai fait pour mes enfants, à compter le nombre de jours de classe réels où ton enfant va à l'école au Québec. On est en Occident, probablement la juridiction où les enfants vont le moins à l'école.
Ah oui, ah, ça je ne savais pas. Quand on enlève tous les congés pédagogiques et tout ça, là...
À 180 jours de classe, plus les congés pédagogiques, là, normalement, on est déjà limite. On est comme les États-Unis. En Europe, c'est 198. Au Japon, on n'en parle pas, c'est 230. Tu sais, bon, c'est, bon.
Oui.
Mais en plus de ça, la réalité, c'est qu'on utilise toutes sortes de petits moyens pour que des jours soient considérés comme des jours de classe alors qu'ils n'en sont pas. Par exemple, quand il y a un examen du ministère le matin et que les élèves vont pas en classe l'après-midi, c'est considéré comme un jour de classe complet.
C'est quand absolument ridicule.
Quand les professeurs te remettent le bulletin l'après-midi de ton enfant, c'est considéré comme un jour de classe.
Alors, donc, c'est vraiment trop peu. On va devoir s'équiter là-dessus, Myriam, parce que c'est vraiment tout le temps qu'on a. Mais on regarde ça. Mais c'est vrai que c'était extrêmement décevant, la conférence de presse du ministre de l'Éducation hier. Vraiment, on navigue dans le brouillard. C'est absolument hallucinant. Puis, je comprends pas. Il y a des spécialistes qui disent depuis des mois, je pense à Nima Machouf, je pense à Amir Kadir, je pense à plein d'autres, ventilation. Il fait une conférence de presse, on était tous convaincus qu'il a annoncé quelque chose pour les ventilations. Rien du tout, c'est absolument déplorable. Myriam, merci beaucoup, puis on se reparle demain.